Livre 2, chapitre 15. Le bouton de diamant. Tout le monde sait tout à présent, et bien mieux que les pauvres diables qui fatiguent la plume. Les jolis jeunes gens qui servent les dames dans les magasins de nouveautés connaissent désormais sur le bout du doigt ce que c'est que le grand monde. Le grand monde étant donc à la portée de tout le monde, il serait superflu, pour ne pas dire malséant, d'apporter nos définitions. Au fond, le grand monde n'a que faire dans cette histoire de brigand, racontée honnêtement et paisiblement, sans un seul mot d'argot, sans un seul sermon généreux. Il n'y a jusqu'à présent ni boue ni écusson, quoiqu'il soit reçu que l'une est destinée à éclabousser les autres. J'ai peur d'avoir commis une impure platitude en insultant, chemin faisant, aucune cathédrale ni aucun palais. Je n'ai pas même su placer ce membre du parquet, bilieux et verdâtre, qui cache sous son habit noir toute une pharmacie de vitrioliques passions. J'ai prononcé le mot malgré moi, car nulle force humaine ne peut dissimuler un remords. Les habits noirs, quel titre cela donnait ? Des menaces, des promesses. Tout le venin qui jaunit les petits, toute l'insolence qui pléthorise les grands. L'éternelle bataille, la guerre sociale, l'Iliade du vice en linge blanc, gras, repu, content, assiégé par mille vertus en blouse, maigre, affamé, haineuse, et aspirant, comme c'est leur droit, à monter, à se vêtir, à manger pour devenir vice à leur tour, car les hommes sont frères. Les habits noirs, les monstres, les habits noirs. Songez donc qu'ils ont tous des habits noirs dans ces cavernes, au palais, à l'église, au tribunal de commerce, au conseil d'État. Pour l'honnête criminel que les imperfections de notre société obligent à, bien malgré lui, à voler ou à poignarder, c'est la livrée de l'ignominie. Prêtre, magistrat, banquier, avocat, courtisan, religieuse, huissier, académicien, député, courtier marron, sont uniformément habillés de noir. Les maréchaux de France eux-mêmes quittent leur broderie pour se mêler à la vie commune. Le noir, on peut le dire, est au XIXe siècle une enveloppe qui recouvre toutes les puissances et toutes les noblesses. Toutes les ambitions et toutes les opulences, toutes les conquêtes, tous les succès, toutes les gloires. Si bien que, pour entamer la lutte, il faut déjà que le simple soldat revête ce cabalistique uniforme et que les vaincus eux-mêmes l'endossent pour cacher leur revers. L'habit noir, domino des bals masqués qui déguisent parfois la vieillesse, la jalousie, la vengeance. Eh bien non, rien de tout cela. Au lieu de toutes ces poésies, nous ne possédons dans notre sac que la pauvre biographie d'un voleur qui n'avait aucun plan de réorganisation sociale, qui ne se targuait d'aucune mission apostolique et qui n'était même pas prédicateur. Sans nous donner ce ridicule de disserter sur le grand monde, nous pouvons bien dire qu'à Paris, c'est là un terme essentiellement relatif. Chacun a son grand monde et nul ne peut nier qu'il y ait, dans ce petit département de la Seine, un perceptible point sur la carte, des quantités à peu près innombrables de grands mondes, juxtaposés ou superposés, qui suivent fidèlement, du plus bas au plus haut, la marche ascensionnelle de l'escalier social lui-même. Madame Schwartz était au-dessus de son grand monde. Elle avait ses heures d'ambition ardente, comme sa nature même. Tout à coup, il lui prenait de passionnés besoins d'éclat, de bruit, de plaisir. À d'autres instants, elle tombait dans une indifférence profonde. Monsieur Schwartz avait des désirs moins chauds, mais qui duraient toujours. Ce qui précède est pour expliquer la position de Madame la Comtesse Corona dans la maison Schwartz. Il n'y avait entre la baronne et la comtesse aucune sympathie apparente. Ce qu'elles ressentaient l'une pour l'autre ressemblait plutôt à de l'éloignement. À l'exception de quelques maisons, non classées dans l'échelle des mondes, une femme n'entre nulle part que par les femmes. C'était donc par Madame Schwartz que la comtesse était ici. L'âge de Blanche et la complète abdication de Monsieur le Baron en faveur de sa femme, dès qu'il s'agissait de choses mondaines, ne pouvait laisser aucun doute à cet égard. Un prétexte, sinon un motif, se présentait à l'esprit de ceux qui avaient assez de loisirs pour chercher le mot de cette petite énigme ailleurs que dans une communauté de patrie ou dans une parenté éloignée. La comtesse Corona, en tant que niveau mondain, était à la fois au-dessus et au-dessous des Schwartz. Elle avait au pied ce lourd boulet qu'on nomme mystère. Cela, évidemment, gênait son essor. Mais malgré le boulet, elle mettait l'orteil sur des échelons que la baronne n'eut pas même atteint en se hissant sur les pointes et en étendant les bras. Ceci au-dessus du point où l'escalier se bifurque, allant d'un côté vers la cour, de l'autre vers le cénacle. La comtesse Corona était reçue, et bien reçue dans la nombreuse famille du maréchal, dont toutes les branches étaient de la cour. Elle voyait en même temps les Savoie-Brois brillants qui tenaient le bon bout au faubourg Saint-Germain. C'étaient là deux clés puissantes pour ouvrir la porte Schwartz. Mais pourquoi la comtesse en usait-elle? Quel était le besoin ou l'attrait qui la menait au seuil de cette maison Schwartz où elle n'avait rien à gagner? Les enfants voient singulièrement clair parfois. Blanche, quand elle était petite, disait que cette charmante comtesse, qui la comblait pourtant de caresses et de jouets, avait l'air d'un chat qui guette une souris. Après le départ de Michel, la maison Schwartz resta un instant comme étonnée. Quelque chose manquait, surtout au baron qui était un homme d'habitude. Puis, tout reprit le train accoutumé, au moins en apparence, mais au fond, la tranquillité intérieure était morte. Monsieur Schwartz portait, au plus fort de ses luttes commerciales, une préoccupation constante. Il organisait l'espionnage autour de sa femme sur une grande échelle, et Madame Schwartz se sentait surveillée. Monsieur Lecoq, à cette époque, entra plus avant dans l'intimité de la maison. Seulement, cet homme habile ayant des rapports également bienveillants avec monsieur et avec madame, nul n'aurait su dire lequel des deux il servait le mieux. La comtesse Corona ne servait ni l'un ni l'autre, et pourtant, elle aussi avait des yeux de lynx. Michel s'était réfugié au quatrième étage de la rue Notre-Dame de Nazareth. Ils étaient là, trois amis dans une situation pareille, en train de fatiguer le sort contraire et n'attendant qu'un peu de bonheur pour éblouir leurs contemporains. Les deux compagnons de Michel étaient des poètes transfuges aussi de la maison Schwartz, où l'on admettait en fait de poésie que le petit commerce de Savigny-Larsin et l'industrie de Sensitive. Il y a place pour tous au soleil de l'art. Les deux compagnons de notre Michel avaient déserté, pleins de confiance, les bureaux Schwartz pour cingler deux conserves vers l'immortalité. À eux trois, ils se partageaient le monde. Jusqu'à présent, rien de ce qu'ils souhaitaient ne meublait leur mansarde, mais ils avaient la jeunesse et l'espoir qui sourit aux enfants amoureux. Un matin, Domergue, profitant de l'absence de Madame Sicard, pénétra dans l'appartement de la baronne et lui dit « L'oiseau a perdu hier 1000 écus à la roulette. Ça finira mal. Il doit à Dieu et à ses saints. Ce n'est pas madame que la chose regarde, c'est monsieur. Mais madame est si bonne. » Ce Domergue avait conservé un faible pour Michel. Il le surveillait pour son propre compte et ne se doutait pas encore du service qu'il rendait à la baronne en agissant ainsi. Madame Schwartz, en toilette de bal, car elle ne choisissait pas ses heures de liberté, monta ce soir-là même les 4 étages de Michel. Cela ne fit nullement sensation dans la loge du concierge Rabot, car Monsieur Lecoq recevait des élégantes et l'on avait vu une jeune dame de la plus haute, au dire de maman Rabot, grimper jusqu'au taudis de trois pattes. Nos amis Échalot et Similor ne se trompaient point en définitive. Cette maison renfermait les mystères à Boisseau. Quelques semaines auparavant, Madame Lebert et sa fille aînée qui déménageaient leur humble mobilier étaient venues s'installer dans un petit appartement sur le derrière de l'autre côté de la cour. C'était là un cher projet depuis longtemps caressé, car depuis longtemps aussi, Madame Lebert avait accueilli Michel comme le fiancé de sa fille. Mais entre le jour où ce cher projet était éclos dans la gentille cervelle d'Edmé et l'heure de son exécution, bien des choses s'étaient passées. Et déjà, la première fois qu'Edmé se mit à sa fenêtre pour guetter la chambre de Michel, ses pauvres beaux yeux eurent des larmes. Michel ne rentra pas de toute cette première nuit, et Edmé ne l'avait point vu de toute cette semaine. Que faisait-il loin d'elle? Le roman des amours enfantines, dont nous eûmes le premier chapitre, s'était renouée à l'âge où l'âme se connaît. Aimée avait droit. Où était la rivale qui lui volait ce cœur, qui était sa vie? S'il revenait, pensait-elle, me sachant là si près, il n'oserait plus. Ce soir dont nous parlons, Aimée était à son poste, pâle et triste derrière la percale de ses rideaux. Elle eut une bien grande joie tout d'un coup. La chambre de Michel s'éclaira. L'enfant prodigue était de retour. Ses deux camarades, qui habitaient la pièce voisine, travaillaient. Ceux-là travaillaient toujours. Michel entra chez eux vivement. Ils prirent aussitôt leur chapeau et sortirent. On eût dit que Michel venait de les chasser. Michel, resté seul, ferma sa fenêtre sans même donner un regard aux croisées d'Aimée. Il rabattit avec soin les rideaux sur les carreaux. Elle avait été courte, la joie de la pauvre jeune fille. Au bout de quelques minutes, une ombre passa sur le rideau fermé. Ce n'était pas l'ombre de Michel. Aimée serra son cœur à deux mains et se laissa choir sur un siège. Il y avait une femme dans la chambre de Michel. Aimée se sentit défaillir et ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, on ne voyait plus rien que le rideau blanc. Avait-elle rêvé? Elle eût donné la moitié du sang de ses veines pour le croire. Elle voulut savoir. Madame Lebert dormait, lasse du travail de la journée. Aimée descendit, traversa la cour et put prendre, sans être vue de personne, l'escalier qui conduisait au logis de Michel. Son cœur battait, elle était faible et brisée. Elle avait peur de tomber morte avant d'avoir vu. L'escalier n'était éclairé qu'à l'étage où demeurait Michel. Il y faisait nuit. On parlait de l'autre côté de la porte, une ligne brillante marquait le seuil. Une voix de femme disait « C'est un secret de vie et de mort. Nul ne doit savoir que je t'aime. »« Je trouverai un mot de passe, » répondit Michel. « Tenez, le premier venu. Quand on viendra de ma part, on demandera à votre valet « Fera-t-il jour demain ?» Aimée se sentit mourir et descendit d'un pas pénible. Pendant qu'elle descendait, la porte de trois pattes, l'estropié du plat d'étain, située de l'autre côté du carré, s'ouvrit. Aimée entendit le frôlement d'une robe de soie. Une femme parut dans l'ombre. Aimée la devina élégante et jeune. La nouvelle venue, se croyant seule, s'arrêta juste devant la porte de Michel et mit son oreille à la serrure. Elle écouta une minute durant, puis elle frappa brusquement et fort. La lumière s'éteignit aussitôt dans la chambre de Michel. La porte s'ouvrit. Une autre femme, celle dont Aimée avait vu l'ombre dessinée sur les rideaux de la fenêtre, sortit impétueusement. Elle se heurta contre l'inconnu qui eut un rire sec et moqueur. Puis elle trébucha dans l'obscurité sur la première marche de l'escalier. Aimée fuyait à tout hasard, honteuse de son espionnage. Elle reçut un choc. Deux cris partirent à la fois, arrachés par une douleur physique. Aimée avait senti qu'on tirait violemment ses cheveux. Les femmes devinent ces choses. Elle porta la main à sa tête nue, rencontra un objet qui s'était pris dans les boucles de sa chevelure au moment du choc. L'objet était un pendant d'oreille arraché. La douleur éprouvée avait dû être double, et l'autre cri s'expliquait ainsi. Ce fut tout. Aimée était seule dans l'escalier. Les deux femmes inconnues avaient disparu comme par enchantement. Quand Aimée eut regagné sa chambre, elle regarda longtemps le pendant d'oreille. C'était un bouton de diamant d'une grande beauté, dont la monture restait sanglante. Aimée fut prise cette nuit-là même par la fièvre qui la mena jusqu'au bord du tombeau. Celle à qui appartenait la boucle d'oreille arrachée ne vint jamais la réclamer.